Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt, parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté.
Un vent de révolte souffle ce soir à Marseille, appel à la désobéissance civile, recours en justice, les élus entrent en résistance face aux nouvelles mesures de restriction. Le Premier ministre n'entend pas céder, on l'entendra. C'est un nouveau record, plus de 16 000 nouveaux cas détectés, les hôpitaux craignent la saturation, 20% des opérations chirurgicales reportées à Paris dès ce week-end. Pas de licenciement en échange d'un effort sur les fiches de paie, confrontées à la crise, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à négocier avec leurs salariés. Dans ce journal également, Donald Trump hué alors qu'il se recueillait devant le cercueil de la juge Ruth Bader Ginsburg. 30% de cyclistes en plus depuis le déconfinement et 15% d'accidents supplémentaires. La sécurité routière lance une grande campagne de sensibilisation. Et puis le tirage au sort du premier tour de Roland-Garros. Premiers échanges dimanche. Le temps de demain, orages et pluie dans le sud-ouest, grisaille sur le reste du pays, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse de 0,83% à 4762 points. Les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho à 22h20. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Roland Egui, président confédéral de l'UMI, et ce, au sujet de la fermeture anticipée ou totale des bars et restaurants. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La deuxième vague fait décidément beaucoup de vagues. À Marseille, l'annonce de la fermeture totale des bars et restaurants dès samedi fait hurler les élus, une colère qui ce soir s'accompagne de menaces. Samia Ghali, l'adjointe à la mairie, n'hésite pas à appeler à la désobéissance civile. Le président de la région PACA annonce quant à lui qu'il va déposer demain un référé en justice contre la fermeture des bars et restaurants. Nathalie Chevance, vous êtes notre correspondante à Marseille, ville où la résistance s'organise donc et qui donne ce soir l'impression d'être une cocotte minute prête à exploser.
Et oui, plus les heures passent, plus la colère gronde. Colère politique de la région, de la métropole et de la ville de Marseille. Chiffre à l'appui, les élus expliquent que le pic épidémique est passé. 10 000 tests réalisés par jour à Marseille. Les efforts commencent à porter leurs effets. Résultat, Benoît Payan, le premier adjoint, estime que les nouvelles restrictions imposées par Paris sont un affront.
Notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt. Alors vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension et dans la colère parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté. Et c'est pour cela que nous n'acceptons pas d'être l'outil d'une politique spectacle, d'un ministre qui peine à gérer ses échecs.
Alors les élus et les représentants des cafetiers restaurateurs ont été reçus en préfecture tout à l'heure pour faire remonter le message. Le gouvernement doit revoir sa copie et le ton monte, insiste Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMIH des Bouches-du-Rhône.
Le risque, il est d'arriver, de basculer dans la violence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui soient prêts à n'importe quoi. Un chef d'entreprise, s'il perd son emploi, derrière, il perd son logement, il perd sa famille, il perd tout. On peut se retrouver avec des gestes de désespoir. Donc il faut à tout prix éviter cela. Il faut en appeler à la responsabilité de chacun, et même à des ministres.
Et pour dénoncer le reconfinement de l'économie, une manifestation est prévue dès demain matin avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille, où l'on vient de l'entendre, la méthode du gouvernement passe mal. Manque de concertation, mépris de Paris, autant de critiques auxquelles vient de répondre le Premier ministre Jean Castex.
J'entends les réactions des Marseillais, mais je me suis expliqué. J'ai téléphoné ce matin au président de région, j'ai téléphoné ce matin à madame la maire de Marseille pour leur expliquer quelle est notre position. Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État responsable de la sécurité sanitaire en dernier ressort qui les assume. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de travailler avec eux, mais je pense qu'il aurait été, et vous voyez d'ailleurs leur réaction, très difficile pour eux d'assumer ces mesures nécessaires. Ils nous disent, oui, on a un petit tassement depuis 2 ou 3 jours des personnes atteintes par le virus à Marseille. En réalité, le critère le plus important, c'est les gens qui vont en réanimation. Ça monte. Et là, aujourd'hui, on commence à déprogrammer. Et donc, vous voyez, si on continue à suivre, c'est-à-dire si des mesures ne sont pas prises, les capacités de réanimation sont atteintes par les malades COVID.
Jean Castex.
Si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. Et ma responsabilité,
ça veut dire reconfinement.
Ça pourrait dire reconfinement.
Le Premier ministre invité de l'émission Vous avez la parole sur France 2, Jean Castex, vous l'avez entendu, qui tente donc d'éteindre cette colère qui gronde un peu partout en France, pas seulement à Marseille, à Paris aussi. En quoi la fermeture des bars à 22h va-t-elle vraiment limiter la diffusion du virus, interroge la maire Anne Hidalgo. Mais au-delà de ces désaccords politiques, il y a la réalité des chiffres. Plus de 16 000 nouveaux cas de contamination au Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est un nouveau record. Le taux de positivité continue lui aussi de grimper. Il est ce soir de 6,5% contre 6,2% hier. De plus en plus de malades donc, égale de moins en moins de lits disponibles. La situation se tend de jour en jour dans les CHU à tel point que les hôpitaux de Paris ont décidé de prendre les devants pour anticiper l'arrivée de futurs malades du Covid, Anne Le Gall.
Oui, les hôpitaux de Paris vont commencer à reporter certaines opérations chirurgicales dès ce week-end, car le nombre de patients Covid a doublé depuis fin août. En service de réanimation, un lit sur quatre est actuellement occupé par un malade du coronavirus. Ces patients y restent entre 16 et 18 jours. C'est une durée de soins qui a tendance à s'allonger. Face à des chiffres aussi inquiétants, le report des opérations non urgentes sera donc décidé au cas par cas, explique François Crémieux, directeur général adjoint des hôpitaux de Paris, avec une règle essentielle.
Ne commencez par déprogrammer que des patients dont les interventions chirurgicales ou dont la prise en charge médicale peut être reportée sans qu'il y ait de perte de chance. L'enjeu dans les 15 prochains jours est de ne pas avoir en octobre à franchir un troisième palier, qui est celui que nous avons prévu, qui est de passer de 20 à pas loin de 50% de déprogrammation, encore une fois pour pouvoir libérer des lits de soins critiques pour accueillir des patients Covid.
En pratique, ce sont donc des opérations comme la pose de prothèses de hanche, de genou, les opérations du canal carpien, des ligaments croisés ou encore les opérations de la cataracte qui pourraient être décalées. À la PHP, on espère que ces mesures seront suffisantes pour continuer à accueillir des patients Covid en fin de semaine prochaine.
Anne Le Gall, toujours à Paris, des cafetiers et restaurateurs ont manifesté cet après-midi. Ils ont symboliquement jeté les clés de leur commerce. Autre activité concernée par les nouvelles mesures, les salles de sport. Elles vont à nouveau devoir fermer à partir de lundi dans les zones rouges. Une catastrophe sociale en perspective, alerte Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle.
On va avoir des défaillances, on va avoir des faillites, c'est sûr. Il y a 10 000 emplois menacés d'ici la fin de l'année. C'est une catastrophe pour le secteur et on est vraiment en colère et dans l'incompréhension. On ne peut pas accepter que le ministre de la Santé déclare que les salles de sport sont des lieux de propagation du virus. Ce n'est pas vrai, en tout cas on n'en a pas la preuve, ou plutôt on a des chiffres qui laissent à penser qu'il n'y a quasiment aucun cas de virus constatés dans les salles ou alors de manière complètement dérisoire. Donc on est très en colère là-dessus. De l'avis de tous les spécialistes et tous les scientifiques, être en bonne santé, faire une activité physique est un des gestes barrières pour éviter justement d'attraper le virus ou en tout cas les symptômes les plus durs. Et quand là on vient fermer les salles de sport, c'est la compréhension la plus totale. Le sport n'est pas le problème, c'est une des solutions. Et il faut au contraire le préserver.
Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, joint pour Europe 1 par Jean-François Pérès. Notez que le procès des attentats de janvier 2015 a été interrompu aujourd'hui après le malaise de l'un des prévenus qui présente des symptômes pouvant faire penser au Covid. Le procès devrait reprendre demain matin. L'Union européenne appelle les États membres à durcir leurs mesures pour contrer la deuxième vague. Bruxelles s'inquiète surtout pour 7 pays où la situation est jugée pire qu'en mars au moment du pic de l'épidémie. Et c'est le cas notamment de la Croatie, de la République tchèque ou encore de l'Espagne. Près d'un million d'habitants de Madrid et sa périphérie ont l'interdiction depuis lundi de quitter leur quartier. Eh bien, la capitale espagnole va annoncer demain l'extension de ces mesures à de nouvelles zones de la ville.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est l'image qui tourne en boucle ce soir sur les télés américaines. Donald Trump hué alors qu'il se recueillait devant le cercueil de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Scène qui s'est déroulée littéralement sous vos yeux, Xavier Yvon.
Oui, Donald Trump est apparu entre les colonnes blanches de la Cour suprême devant le cercueil de la juge Ginsburg et la foule qui attendait son tour dans la rue à côté derrière des barrières s'est mise à huer, à hurler « Dégagez-le par les urnes !» Au milieu des cris, le président américain est resté impassible derrière son masque, une scène incroyable ici à Washington.
That's why I came here, to protest him.
C'est pour ça que je suis venu, je voulais protester contre lui, explique Nikki avec son panneau « Sauver notre démocratie ». Sa présence ici est une insulte, dit-il. Il ignore totalement le dernier souhait de Ruth Bader Ginsburg. La magistrate a demandé sur son lit de mort en effet à n'être remplacée qu'après l'élection. Respecter son vœu, autre slogan scandé par la foule sous le nez de Donald Trump. Une phrase de ralliement inscrite aussi sur les masques portés par beaucoup d'admirateurs de RBG, comme on l'appelle ici. Mais une incantation qui restera vaine. Donald Trump doit annoncer le nom de la nouvelle juge samedi et il veut qu'elle soit confirmée par le Sénat avant le 3 novembre, date du vote.
Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France où environ 200 salariés de General Electric ont perturbé aujourd'hui la sortie d'une turbine à gaz. Ça s'est passé sur le site de Belfort. Habillés de noir, ils ont organisé un cortège funèbre pour illustrer, je cite, le carnage industriel à l'œuvre. General Electric prévoit la suppression de 753 postes en France. On a tous bu un jour dedans, notamment à la cantine scolaire. Les verres Duralex ont été placés aujourd'hui en redressement judiciaire. Les dettes de la verrerie ont été gelées en attendant qu'un plan de redressement soit proposé. Pour l'heure, les 248 salariés continuent de travailler et d'être payés, assure la direction. Et si la solution pour ces entreprises en difficulté passait par des accords de performance collective? En clair, pas de licenciement contre un gel ou une baisse des salaires. Dernier exemple en date, l'équipementier automobile Valeo, Clément Le Saffre.
Oui, la direction a proposé aujourd'hui un accord à ses 13 500 salariés français. Pas de plan social ni de fermeture de site pendant 2 ans en échange d'un gel des salaires. Un plan qui doit permettre à Valeo de passer le cap de la crise économique liée au Covid. Il doit tout de même être validé par les organisations syndicales. En fait, c'est ce qu'on appelle un accord de performance collective. Ce n'est pas un outil nouveau, il a été créé en 2017 par les ordonnances travail. Mais avec le Covid, ce type d'accord est devenu un moyen de lutter contre la crise au même titre que les accords d'activité partielle de longue durée. L'une des premières entreprises à avoir brandi cet outil, c'était la filiale aéronautique du groupe de Richebourg en juin. Pour éviter un plan de sauvegarde de l'emploi de 700 postes, la direction a proposé une baisse temporaire des salaires de 20%, accord accepté par une majorité de salariés. Un accord similaire avait été proposé au journal L'Équipe avec une baisse des salaires de 10%, plan cette fois refusé par les salariés qui a obligé la direction à envisager une solution alternative. Et puis, dernier en date, Ryanair, les pilotes ont accepté il y a quelques jours de baisser leur salaire de 20% pendant 5 ans, un accord qui évite le licenciement de 23 des 81 pilotes français de la compagnie.
Clément Le Saffre. C'était l'une des promesses du Grenelle pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le bracelet électronique anti-rapprochement sera mis en place demain. Ce dispositif vise à tenir éloignées des victimes les conjoints ou ex-conjoints violents. Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous habitez en ville. Les cyclistes pullulent sur le bitume. Vous êtes de plus en plus à opter pour le vélo pour vos déplacements. C'est écologique, pratique en cas de grève et plus rassurant que les transports en commun en temps de Covid. Plein de bénéfices donc, mais aussi pas mal de risques. Car si pédaler semble à la portée de tous, certains cyclistes ont tendance à oublier les règles élémentaires de sécurité routière. D'où cette campagne qui va être lancée demain. Yasmina Katou, les chiffres sont parlants.
Et oui, il y a 30% de cyclistes en plus depuis le déconfinement et qui dit plus d'usagers dit plus d'accidents mécaniquement. 200 blessés supplémentaires sur les pistes ces 3 derniers mois par rapport à l'année dernière. Alors pour ralentir le phénomène, la sécurité routière sensibilise les cyclistes sur leurs points faibles. Marie Gauthier-Melleray, déléguée à la sécurité routière, vise notamment les angles morts.
Les cyclistes n'ont pas toujours conscience de ces angles morts. Ça fait partie effectivement des éléments qui vont faire l'objet d'un texte dans les mois à venir permettant une nouvelle signalisation des angles morts avec des autocollants qui seront apposés directement sur les poids lourds et sur les autobus.
D'ici une semaine, vous pourrez lire à l'arrière des bus « Cyclistes, méfiez-vous des angles morts, ils portent très bien leur nom », le tout écrit jaune sur noir. Autre mesure pour mieux partager la route avec les automobilistes et éviter les accidents, le marquage vélo au feu rouge, vous savez, ce qui permet aux cyclistes d'être devant les voitures, seront généralisés par décret. Et puis la sécurité routière mise sur l'apprentissage du vélo dans les écoles.
Précision pour Europe 1, signée Yasmina Katou. Les amateurs de tennis ont noté la date depuis de longs mois, c'est dimanche que débutera Roland-Garros. Une édition, vous le savez, fortement perturbée par la crise sanitaire. Beaucoup de questions encore en suspens, notamment celle du public. Guy Forget a exprimé ce matin sur Europe 1 ses inquiétudes. Le directeur du tournoi ne comprendrait pas que la jauge passe de 5000 à 1000 spectateurs. En attendant que le préfet de Paris se prononce, ce sera samedi, le tirage au sort du premier tour a eu lieu cet après-midi et ce sous vos yeux, Corinne Blou.
Eh bien, le match phare qui retiendra l'attention du premier tour de ce Roland-Garros si particulier, c'est celui qui opposera le Suisse Stan Wawrinka, 17e mondial, au Britannique Andy Murray, retombé au 111e rang après une opération à la hanche il y a 3 ans. C'était une affiche de demi-finale. Premier tour à leur main pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic face au jeune Suédois Immer et pour le tenant du titre Rafael Nadal qui s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui sur le court Philippe Chatrier, équipé désormais d'un toit, l'Espagnol opposé au Biélorusse Gerasimov. Le finaliste de l'an passé Dominic Thiem, vainqueur il y a 15 jours de l'US Open, pourrait retrouver cette fois Nadal, mais en demi-finale. Le numéro 1 français Gaël Monfils, en recherche de sensations, aura un bon test au premier tour face au Kazakh Bublik. Richard Gasquet n'aura pas la partie facile face à l'Espagnol Bautista Agut. Chez les femmes, il y aura une confrontation tricolore au premier tour entre l'expérimentée Alizé Cornet et la jeune Chloé Paquet. L'américaine Serena Williams commencera sa quête d'un 24e trophée en Grand Chelem face à une compatriote. Elle se trouve dans la même moitié de tableau que la tête de série numéro 1, la roumaine Alep, victorieuse ici il y a 2 ans. La tenante du titre, l'australienne Ash Barty, est absente.
Corinne Boulou pour Europe 1, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. On passe à la météo. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été placé en vigilance orange, pluie, inondation. Anissa Haddadi, le temps sera donc très agité demain.
Oui, la journée est effectivement très agitée demain, Julien, et c'est dans le sud-ouest et le long de la façade atlantique que le temps sera le plus agité avec des orages dès le début de journée. En Corse aussi, le tonnerre gronde demain. Partout ailleurs, le ciel est gris dès le lever du jour avec des averses et surtout l'événement demain. C'est l'arrivée de la neige sur les Alpes à 1500 mètres d'altitude sur les côtes. Aussi, le vent souffle encore demain assez fort. Dans l'après-midi, les orages se font de plus en plus nombreux, des Pyrénées à la Bretagne, sur le Limousin, sur la Charente et le Centre. La neige continue de tomber à 1500 mètres d'altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Ailleurs, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. C'est vraiment une journée à rester sous la couette. Malheureusement, on ne pourra pas. Les températures, elles sont fraîches. 6 à 15 degrés demain matin et 14 à 20 degrés dans l'après-midi au sud, avec 17 à Lyon, 20 à Toulon, 23 à Nice. Ailleurs, ça baisse bien, avec 11 degrés à Mende demain après-midi, 14 à Paris et 16 à Nantes.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview à Echo. Et Emmanuel Duteil reçoit ce soir Roland Aigui, président confédéral de l'UMI, au sujet de la fermeture anticipée ou totale des bars et restaurants un peu partout en France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street tente de repartir de l'avant, mais sans convaincre.
C'est poussif, hein. On baisse à l'ouverture, en hausse, en cours de séance d'1%. On est retombé, mais on gagne quand même un petit peu de terrain ce soir. Le Dow Jones, plus 0,20%. 26 815 points. Le Nasdaq, plus 0,37%. Petite hausse, là aussi. 10 672 points. Et toujours beaucoup de chahut sur les valeurs de technologie. Il n'y a pas eu de déclaration fracassante. En revanche, du côté de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, son patron, son président, parlait encore, s'exprimait de nouveau aujourd'hui. Pas de scoop, donc. James Bullard, quand même, le patron de la Fed de Saint-Louis, a quand même tenté de rassurer son monde et il voit l'économie américaine retrouver son rythme antérieur fin 2020. C'est quand même assez optimiste et ça ne convainc pas tout le monde. Il y a beaucoup de nervosité donc encore une fois du côté des valeurs de technologie. Tesla, c'est un petit peu le symbole du moment, qui poursuit son parcours en forme de montagne russe. Plus 2% ce soir, Tesla avait beaucoup baissé hier. 387 $, le reste est très hésitant. On a de petites hausses sur Apple, plus 1%, 108 $. Amazon, plus 0,7%. Microsoft, plus 1,4%. Facebook est stable, IBM aussi. Le pétrole revient sur les 40 $. On est en hausse quand même d'1,5% sur le WTI. L'euro campe à 1,1670 face au dollar.
La bourse de Paris a effacé son rebond d'hier dans un marché toujours aussi prudent.
Oui, ça n'a pas tenu. Ce sursaut donc a été reperdu d'un coup puisque le CAC 40 a perdu, à céder 0,83% ce soir. 4762 points. Retour à la case départ. Et sans surprise, ce sont toujours les mêmes secteurs d'activité qui sont pénalisés lourdement par la la situation économique. Le loueur de voitures qui est en difficulté, Europcar, chute encore de 8%. Puis le groupe spécialiste de l'événementiel, General Events, perd aussi 8%. Du côté du pétrole, c'est pas brillant non plus. Vallourec avec une nouvelle baisse de 7% pour les parapétrolières. Vallourec moins 7% et Technip moins 6%. Et puis l'aéronautique, Airbus moins 3,5%. Air France KLM aussi chute de 6,7%, 3 euros seulement ce soir. Le groupe aérien ne vaut plus que 1,3 milliard d'euros en Bourse de Paris. À noter Suez qui a reperdu aussi 4,5% alors que le bras de fer continue de se durcir avec Veolia qui tente de racheter son concurrent Suez. Suez en baisse finalement ce soir de 4,5%.
Exception du jour, le spécialiste du camping-car, Trigano, s'est envolé de 13%.
C'est la bonne surprise, oui, le fabricant de camping-car grimpe de 13% à 119,80 euros. Le quatrième trimestre a vu le chiffre d'affaires du groupe Trigano bondir littéralement de 33%, 628 millions d'euros, une forte reprise après un coup de mou logique au troisième trimestre en raison de la crise sanitaire. Donc un rebond plus fort que prévu qui a surpris le marché. Le discours de la direction reste très confiant pour la fin de l'année. Donc une hausse finalement de 13% pour Trigano ce soir, proche des 120 euros, 119,80 à la clôture.
120 euros pour Trigano, 6 euros pour Air France.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est le grand écart. Hein.
Ouais.
Oui, complètement. Sur les autres places financières, ce n'est pas très convaincant. À Madrid, moins 0,16%. À Milan, moins 0,12%. Baisse aussi de 0,3% sur le DAX à Francfort. Et donc le CAC 40 en baisse de 0,83%. 4762 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Roland Egui.
Bonsoir Roland Egui.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'UMI, hein, qui regroupe un grand nombre de restaurateurs. J'imagine que vos restaurateurs sont très inquiets après les récentes décisions du gouvernement, soit de complètement fermer les restaurants dans des villes comme Marseille ou d'avoir de grosses restrictions, notamment pour les bars en Ile-de-France à partir de lundi.
Écoutez, ça dépasse l'inquiétude. Il y a un vrai vent de panique. On a été KO debout. Et les organisations professionnelles, on est vent debout. On dénonce cette mesure qui était injuste, discriminatoire, incohérente. Et on demande, d'ailleurs, on a demandé...
Pourquoi est-elle si incohérente? Parce que malgré tout, semble-t-il, oui, on sait qu'il y a potentiellement des risques de contamination dans les bars, notamment. On sait, oui, que la distanciation sociale, et on le vit tous à titre personnel, quand on y, oui, va, on est parfois pas très responsable parce que la soirée avançant, on respecte plus les distances, on boit debout, etc., etc. Est-ce que malgré tout, vous ne comprenez pas le souci de santé publique ?
Bien sûr, mais bien sûr, c'est très important. On est quand même des chefs d'entreprise responsables. Mais ce que je vais vous dire, pourquoi on dit qu'elle est incohérente ? Parce qu'encore hier le ministre a bien précisé, effectivement, avant de prendre cette décision, que la contamination se faisait surtout dans les milieux familiaux, hein, dans les familles. Mmh. Et on s'est aperçu que nous, par exemple, à qui on envoie, je veux dire, toutes les semaines chez les adhérents, dans nos restaurateurs, nos hôteliers, nos cafés, des alertes en disant surtout respecter ce protocole sanitaire sur lequel on a travaillé avec l'ARS et le ministère de la Santé. Et la très grande majorité de nos professionnels respectent à la lettre ce protocole. Et bien sûr qu'il y a des mauvais élèves. On l'a bien vu, c'était depuis le mois d'août, j'arrête pas de dire. Il faut réprimander ces mauvais élèves, puisqu'il en existe. Par contre, il aurait fallu aussi réprimander tous ces rassemblements qui sont sur le domaine public avec des centaines de milliers sur tout le territoire français. Des milliers de jeunes qui se retrouvaient, qui se retrouvaient dans des appartements privés, ils sont 4 personnes, ils se retrouvent à 30, 40 personnes. C'est là où c'est qu'il y a un danger.
Mais soyons
là,
très.
Il n'y a eu aucun contrôle là, aucun contrôle.
Soyons très concrets. Là, oui, avec cette décision, vous avez des restaurateurs, vous avez des personnes qui tiennent des bars qui vont couler, qui vont faire faillite plus que ce qu'il y en aurait autrement.
On a un observatoire, on a pratiquement sur les 220 000 entreprises, il y a 15%, entre 15 et 20% d'entreprises qui ne passeront pas le cap du Covid-19. Ça veut dire qu'il y aura des faillites qui vont tomber dans les jours et dans les semaines qui arrivent.
Et ça va s'accélérer.
Et ça va s'accélérer. Et en plus, derrière, et puis, il y aura entre 200 et 250 000 collaborateurs salariés qui vont être au chômage. Donc, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement, effectivement ? C'est effectivement, pour éviter cette casse sociale et économique, c'est de trouver, justement, j'allais dire, une soudure, une jonction entre maintenant où économiquement les choses ne se passent pas bien, jusqu'à la reprise.
Mais on est bien d'accord que, quelle que soit l'aide, aujourd'hui, devoir fermer, c'est bien trop dur pour la plupart de vos adhérents.
Bien sûr, parce qu'on était parti, souvenez-vous, au mois de mars, on était parti sur on avait retenu ce qu'avait dit le président de la République. On avait dit zéro recette, zéro dépense. Mais quand un établissement sont fermés depuis des mois et des semaines, effectivement, il n'y a plus de recettes, mais il y a quand même les coûts fixes qui continuent à courir, les loyers, les maintenances, enfin, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un euro de recettes. Imaginez-vous ce que c'est. Vous prenez l'événementiel, les traiteurs, les discothèques, certains restaurants, certains cafés. Oh, je vous le dis, il va y avoir une casse sociale et économique très importante sur lesquelles, effectivement, on doit travailler intelligemment et on attend ces mesures avec impatience pour pouvoir amortir, effectivement, cette casse sociale et économique.
On l'entend, il y a beaucoup de désespoir. Est-ce que le désespoir pourrait devenir de l'énervement et se faire entendre comme tel, c'est-à-dire que avoir des mobilisations extrêmement fortes et extrêmement dures?
Mais j'entends bien, ça commence, effectivement. Nous, le reproche qu'on nous fait, effectivement, il nous dit, écoutez, Roland, il faut aller dans la rue, il faut aller dans la rue. Moi, je suis effectivement dans la négociation. Je crois que le gouvernement a fait des efforts importants dès le mois de mars pour effectivement soutenir. On ne savait pas que l'épidémie au mois de mars allait durer aussi longtemps, parce qu'attendez, quand je dis le temps de l'épidémie, on était en 2020, on était au mois de septembre, on a déjà imaginé, avec l'ensemble des acteurs du tourisme, que 2021 va déjà être aussi une année blanche.
Mais ce que j'entends de ce que vous dites, Roland Hégui, président de l'UMI, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir vos troupes.
On n'est pas sûr de tenir nos troupes, parce que je vous dis, vous savez, quand vous êtes au bord du précipice, on ne peut plus raisonner ces personnes-là, c'est pas possible.
Et comment, du coup, ça pourrait se matérialiser d'après vous? Qu'est-ce qui vous dit? Parce que j'entends, on peut aller dans la rue.
Il faut tout à fait éviter des mesures, des moments insurrectionnels où certains restaurateurs et cafetiers laissent entendre, par exemple, qu'ils ne veulent pas fermer. Bon, c'est à Marseille, à Aix, ce n'est pas possible. Donc,
mais vous pensez que ce mouvement va exister? Vous êtes inquiète, cela? Vous les appelez à la responsabilité?
Bien sûr, on les appelle à la responsabilité. Et dès demain matin, il y aura une manifestation qui va être organisée justement avec l'UMI. Et j'espère qu'elle se passera bien.
À Marseille, ça.
À Marseille, oui, tout à fait. Ils considèrent que ces décisions ont été prises à l'emporte-pièce et qu'une fois de plus, la profession n'a pas été écoutée. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Roland Hégui, président de l'UMI, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr comme chaque soir. Restez avec nous dans un instant. On va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. 22h29 sur Europe 1, voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Une consacrée pour beaucoup aux nouvelles restrictions annoncées hier soir par Olivier Véran. Mesures anti-Covid, le gros rouge qui fâche, titre Libération. Un tour de vis contesté, écrit Ouest France. Et cette question à la une du Dauphiné Libéré, comment en est-on arrivé là? Eh bien c'est à cause de la stratégie illisible du gouvernement depuis la fin du confinement, titre Le Figaro. Pendant tout l'été, le virus a circulé de manière active chez les jeunes, sans conséquences sanitaires graves. En cette rentrée, les classes d'âge plus vulnérables sont touchées à leur tour, aggravant la situation et entraînant un afflux de malades dans les hôpitaux. Un scénario prévisible que le manque de stratégie claire du gouvernement et une communication erratique n'ont pas réussi à éviter, écrit Le Figaro. L'opinion, pour sa part, s'intéresse à la réaction des Marseillais aux nouvelles mesures. Le jeu dangereux de la désobéissance, c'est le titre de l'édito de Nicolas Bétou. Je vous en lis un extrait. Alors certes, la concertation entre le gouvernement et les exécutifs locaux a été défaillante. Un coup de fil du ministre de la Santé une heure avant l'annonce d'une mise en état d'alerte maximale, c'est de l'information, pas de l'écoute. Mais de là à insulter le ministre de la Santé, ferme-la Véran, a jeté la maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin, avec la délicatesse qui lui est coutumière. De là à menacer de passer outre les interdictions d'ouvrir les bars et restaurants, il y a un gouffre que des hommes et des femmes de premier plan en appel à la désobéissance civique est grave, alimenter le ressentiment de ceux à qui le gouvernement demande au contraire d'être responsable est précisément irresponsable. Voilà, c'est-à-dire donc demain dans l'opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous?
Je vais très bien. Une question avant de lancer votre libre antenne. Est-ce que vous aimez le tennis?
Moyennement, j'aime bien quand j'ai l'occasion d'aller à Roland-Garros et de voir de vrais champions, mais je ne suis pas.
J'ai utilisé ce prétexte pour vous annoncer que la jauge à Roland-Garros s'est abaissée à 1000 personnes et non plus 5000 comme c'était le cas il y a encore quelques heures. C'est le Premier ministre Jean Castex qui vient de l'annoncer.
D'accord. Bon, voilà. Pour moi, ça sera pour l'année prochaine alors.
Bon, on espère. Allez, 3921 pour vous appeler pour venir témoigner à tout moment jusqu'à 1h du matin dans la libre antenne. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Julien.